Bonjour Agnès Laurent.
Bonjour.
Au tout début du livre, nous sommes en 1970, un couple s'apprête à laisser ses quatre enfants pour la journée pour aller randonner en montagne. L'aînée Marie-Pierre assiste à leur départ et je lis, elle les observe un moment devenir des points minuscules. Elle ne le sait pas encore, mais ces points seront la dernière vision de ses parents. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là ?
Donc ces enfants qui sont restés à la maison, au chalet, tout seuls, vont attendre en fait leurs parents parce qu'il y a un orage terrible qui se déclenche dans la journée et le soir, les parents ne reviennent pas, et la nuit ils ne reviennent pas, et le lendemain ils ne reviennent pas. Et donc les enfants vont attendre, croire que leurs parents vont revenir, espérer peut-être, se demander ce qui s'est passé, et pendant des années et des années, ils vont attendre.
Cette histoire est inspirée d'un réel fait divers, un couple suisse disparu à l'été 42, bien avant, et dont les corps ont été retrouvés momifiés par la glace en 2017. Cette histoire vous a frappé au point de vouloir en faire un livre ?
Oui, tout à fait. J'avais lu un article qui racontait la cérémonie d'enterrement de ces gens, et notamment, il y avait quelques phrases des filles qui racontaient ce qu'elles avaient vécu, et ça m'avait frappé à quel point, des années après, parce que c'était encore beaucoup plus tard que dans mon livre, elles étaient marquées par l'événement et elles avaient une voix de petite fille encore. Elles parlaient de maman comme si elles avaient 10 ans et ça m'avait frappée.
Votre roman est donc très librement inspiré de cette histoire. C'est le point de départ est le même et ensuite c'est vraiment un roman. Le point commun c'est quand même le sort de ces enfants parce qu'ils vont être séparés et ensuite vivre des vies assez difficiles.
Oui, c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est comment on vit avec, non pas un deuil, parce que ce n'est pas un deuil, mais un manque, c'est-à-dire l'attente, ne pas savoir ce qui s'est passé. Donc il y avait ça. Et l'autre point qui m'intéressait c'était la fratrie. Parce que je trouve fascinant déjà dans des circonstances normales les relations entre frères et sœurs, à quel point on peut s'aimer, à quel point on peut aussi parfois se déchirer pour des broutilles. Enfin, c'est un amour très très particulier, la fratrie, donc je voulais aussi raconter ça, et dans des circonstances extraordinaires, évidemment, ça prend une toute autre ampleur.
Donc dans cette fratrie, chacun à sa façon va vivre obsédé par cette histoire, et ce que vous nous montrez, c'est que la disparition, finalement, c'est bien pire que la mort, parce qu'elle n'offre aucune réponse.
Exactement. Vraiment, ils sont dans une position d'attente. Ils ne savent pas. Et en fonction aussi de l'âge qu'ils ont, de la manière dont ils vivent cette disparition, de la relation qu'ils avaient au père ou à la mère, ils ne le vivent pas de la même manière. Donc en fait, on aurait pu penser qu'il y aurait une solidarité très forte entre eux. Et finalement, elle n'existe qu'à certains moments et à d'autres, ils se déchirent complètement et ils se font du mal, en fait. Donc c'est terrible.
C'est ce qui semble s'être passé pour les vrais enfants de cette fratrie. Vous, encore une fois, c'est un roman, ça n'a rien à voir, mais vous avez eu la même intuition. Pour vous, c'est forcé que ça se passe comme ça? En tout cas, c'est le cheminement logique qui vous est apparu?
Oui, parce que d'abord, j'observe beaucoup. Alors, je n'ai qu'une sœur, donc c'est plus simple. Mais en revanche, je viens d'une très grande famille. Mon père a 8 frères et sœurs. Enfin, voilà, donc je vois bien tout ce que ça peut provoquer, même quand on s'entend bien, même quand il n'y a pas d'argent en jeu. Enfin, vraiment, juste les sentiments, ça peut vraiment partir dans des sentiments très forts, dans des colères, etc. Donc j'avais vraiment envie de raconter ça. Et je pense que face à un événement tel que celui que vivent les enfants, inévitablement, c'est tellement douloureux qu'on ne peut pas faire autrement que de se déchirer. Et en plus, eux, ils sont séparés, donc ils n'ont pas la même vie.
Alors, ce qui est très beau, c'est que l'on suit ces enfants durant un demi-siècle. C'est un roman choral où le temps passe pour chaque personnage. C'est l'histoire de quatre vies ravagées avec une écriture très dense. Il y a une sorte de fièvre dans ce livre, je trouve. Est-ce que vous l'avez écrit avec la même rage qui corsette ces personnages ?
Oui, c'est vrai que la fièvre, je trouve que c'est un mot très juste, c'est-à-dire que j'avais envie de montrer à la fois leur colère, leur impatience par l'écriture. Et d'ailleurs, j'utilise un procédé qui n'était pas forcément pensé comme un procédé, mais il n'y a pas de dialogue, en fait. C'est-à-dire que les voix sont dans le texte, toujours. Et ça donne justement ce sentiment de fièvre dont vous parlez, et je trouvais ça important, parce que ça montre ce qu'ils ressentent. J'avais envie de montrer ça.
Vous faites aussi, à travers ses frères et sœurs, une peinture sociale entre ceux qui vivent à la montagne, une vie assez traditionnelle, ceux qui partent, qui veulent échapper à leur milieu social d'origine. Et c'est aussi ce fossé-là que vous racontez dans ce livre.
Oui, c'est vrai. J'ai essayé de raconter ça parce que, d'abord, il est important qu'il n'ait pas le même destin. Toujours dans ces cas-là, il y en a qui veulent prendre la fuite. Ils prennent la fuite, alors géographiquement, socialement, et du coup après ça donne des rencontres assez douloureuses. Il y a notamment la scène d'un repas de fiançailles où une des sœurs qui est restée à la montagne veut inviter son autre sœur à un déjeuner, elle veut payer, etc. Elle prend des mois pour choisir le restaurant, enfin elle se démène, et sa sœur lui gâche sa journée par un snobisme un peu idiot, et elle finit en plus par payer le repas. Et ça, je trouvais que c'était intéressant et que ça montrait bien, par ces petits gestes, le fossé qui s'installe entre ces gens.
Alors, il faut qu'on parle du titre. Un beau jour, ça peut sonner comme un titre de conte de fées. Moi, j'ai pensé aussi au début de la chanson de Barbara, L'Aigle Noir, Un beau jour ou peut-être une nuit, qui est moins conte de fées pour le coup. Comment vous l'avez choisi, ce titre ?
Alors, un peu tout ça. C'est-à-dire que, effectivement, j'aimais bien le côté un beau jour, conte de fées, parce qu'on avait l'impression qu'on allait emmener le lecteur dans une direction et puis finalement on le trompe un peu et on sait que les lecteurs ils aiment bien finalement être un peu trompés. Il y avait aussi le un beau jour au sens où ça commence par une journée, donc cette journée du mois d'août qui occupe quand même je crois 50 pages dans le livre, donc qui est très importante en fait. Et donc j'avais envie de mettre l'accent sur ce beau jour qui va marquer toute leur vie. Et puis la chanson de Barbara joue un rôle, pas forcément celui auquel on pense quand on connaît la chanson de Barbara et l'interprétation que beaucoup de gens ont de la chanson de Barbara, mais elle joue un rôle dans le livre à un moment.
Agnès Laurent, vous signez Un beau jour aux éditions Récamier, l'histoire d'un couple que la montagne avale pendant 50 ans, de quatre frères et sœurs qui vont devoir vivre toute leur vie dans l'absence et l'incompréhension de six existences qui explosent un beau matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.